Chapitre 17. Manipulation. Ménageant sa jambe droite raide, Tom esquissa une révérence, sa cape de trou vert étincelant de toutes ses couleurs. Malgré ses paupières lourdes, il réussit à parler d'un ton guilleret.
« Bonjour à vous !»
Une fois redressé, il lissa voluptueusement sa longue moustache blanche. Les serviteurs en tenue noire et or parurent surpris. Délaissant le coffre rouge laqué aux incrustations d'or et au couvercle cassé qu'il s'apprêtait à soulever, deux solides gaillards se redressèrent, l'air dubitatif. Devant eux, trois femmes cessèrent de passer la serpillière. Dans le couloir désert, à une heure si matinale, tout prétexte permettant de marquer une pause était bon à prendre. Les épaules voûtées et les yeux cernés, les domestiques paraissaient au moins aussi fatigués que Tom.
« Bien le bonjour à toi, Trouvert !»
dit la plus âgée des trois femmes. Un peu ronde, le visage ordinaire, elle se montrait chaleureuse malgré sa méfiance.
« Nous pouvons t'aider ?»
Tom sortit quatre balles de couleur de sa manche et commença à jongler.
« Je passe dans les couloirs, m'efforçant de remonter le moral des gens. Un artiste doit s'engager selon ses moyens. »
En d'autres circonstances, Tom aurait utilisé plus de quatre balles. Mais dans son état de fatigue, un jonglage pourtant basique était déjà un lourd défi à relever pour sa concentration. Quand avait-il failli laisser tomber une cinquième balle? 2 heures plus tôt? En bon saltimbanque, il transforma un bâillement en sourire, histoire de ne pas trahir son épuisement.
« Une nuit terrible !»
dit-il.
« Les gens ont bien besoin qu'on leur remonte le moral. »«
Le seigneur dragon nous a sauvés !»
souffla une des plus jeunes femmes. Mince et jolie, elle avait dans le regard une lueur de cupidité qui incita Tom à la plus grande prudence. Si elle était intéressée mais honnête, elle pouvait lui être utile, car sa loyauté lui resterait acquise une fois qu'il l'aurait achetée. En ce moment, il ne crachait pas sur une paire de mains susceptibles de déposer un message au bon endroit, ni sur des oreilles capables de surprendre des choses intéressantes, et encore moins sur une bouche disposée à répéter ce qui l'arrangeait partout où il l'estimait utile.
« Vieil imbécile, tu as assez de mains, d'oreilles et de bouche. Alors cesse de t'emballer à cause d'une jolie poitrine et méfie-toi de cette lueur dans ses yeux. »
Cela dit, la femme semblait penser ce qu'elle venait de dire, et un des deux jeunes hommes acquiesça gravement.
« C'est vrai. »
approuva Tom.
« Je me demande quel haut seigneur était responsable des quais hier. »
Furieux contre lui-même, le Trouvert faillit laisser tomber ses balles. Une approche si directe et si maladroite, un type comme lui? L'effet de la fatigue, sans doute. Il aurait été bien plus à sa place dans son lit, et ce depuis des heures.
« Les quais sont sous la responsabilité des défenseurs, »
répondit la doyenne des femmes.
« Tu ne le sais pas, bien sûr. Les hauts seigneurs ne s'embêtent pas avec ces détails. »
Bien entendu, Tom savait très bien tout ça.
« C'est ainsi que ça fonctionne. Eh bien, je ne suis pas d'ici, ce qui explique mon ignorance. »
Tom passa d'un cercle simple à une double boucle. Pour un profane, cet exercice de jonglage semblait très difficile, alors que ce n'était pas le cas. La jeune femme au regard de prédatrice applaudit. Maintenant qu'il s'était engagé dans cette affaire, décida Tom, autant aller jusqu'au bout. Mais quand il en aurait terminé, ce serait pour commencer sa nuit. Sa nuit, alors que le soleil se levait? Un détail dans de telles circonstances.
On peut quand même trouver lamentable que personne ne se soit interrogé sur la présence de ces barges. Surtout que leurs rampes levées dissimulaient des trolloques. Attention, je ne dis pas que quelqu'un connaissait la présence des monstres.
La double boucle menaçant de tourner à la catastrophe, le Trouvert repassa à un simple cercle. De sa vie, avait-il déjà été si épuisé?
J'aurais cru qu'un des hauts seigneurs se serait posé la question.
Les deux jeunes types se regardèrent, le front plissé. Tom eut un petit sourire. Une autre graine plantée sans difficulté, si on oubliait une soudaine maladresse. Une nouvelle rumeur en naîtrait, même si ces gens savaient qui était chargé des quais. Les ragots se répandant à toute vitesse, et cette rumeur-là ferait sans nul doute autour de la ville, un nouveau soupçon augmenterait bientôt la méfiance innée des gens du peuple pour la noblesse. Vers qui se tournerait le peuple s'il suspectait les nobles de trahison? Vers l'homme que les hauts seigneurs détestaient, à savoir le seigneur dragon, ce héros qui avait sauvé la pierre menacée par des créatures des ténèbres. L'heure était venue pour Tom de laisser cette petite graine pousser sans lui.
Si les semailles avaient pris, rien de ce qu'il ajouterait ne pourrait stimuler la croissance de l'utile mensonge. Tom avait planté d'autres graines tout au long de la nuit, mais il ne voulait surtout pas qu'on connaisse son rôle de jardinier des contre-vérités publiques.
« Les hauts seigneurs se sont battus comme des lions aujourd'hui. J'ai même vu... »
Les femmes recommencèrent à briquer, et les deux jeunes hommes soulevèrent leurs coffres et s'en allèrent d'un pas vif.
« Je peux aussi donner du travail à un trouvère !»
dit la Madgeré dans le dos de Tom.
« Une paire de bras est une paire de bras !»
Le trouvère se retourna, jeta un regard appuyé à sa patte raide et s'inclina devant la gouvernante du palais. Cette femme n'était pas bien grande, mais elle devait peser plus lourd que lui. Le visage plat comme une enclume, le bandage qui saignait son front n'arrangeait rien, la Madgeré était accablée d'un double menton, et ses petits yeux sombres semblaient comme naufragés sur son visage bovin.
« Bien le bonjour à toi, gracieuse dame. Accepte ce petit cadeau qui t'aidera à mieux apprécier cette nouvelle journée. »
Tom fit des arabesques dans l'air et tira du néant une fleur jaune, qu'il cachait en réalité dans sa manche. Malicieux, il la piqua dans les cheveux grisonnants de la gouvernante, glissant la tige sous le gros pansement. La Madgeré la retira immédiatement, bien sûr, puis lui jeta un regard soupçonneux. Exactement ce que voulait Tom. En boitillant, il s'éloigna de la mégère et fit mine d'être sourd lorsqu'elle lui cria quelque chose.
Un cauchemar, cette femme. Si on l'avait lâchée sur les troloques, elle les aurait balayées et lessivées au sens propre de ses verbes.
Tom étouffa un bâillement derrière sa main et ses mâchoires craquèrent. Il se faisait trop vieux pour ses âneries, vraiment. Des nuits blanches, des batailles, des complots. Plus de son âge, tout ça. Il aurait dû vivre dans une ferme, bien tranquille, avec des volailles. Il y en avait dans toutes les exploitations dignes de ce nom, ainsi que des moutons. Des bêtes très paisibles, celles-là. Les bergers ne semblaient pas s'épuiser à la tâche, puisqu'ils passaient le plus clair de leur temps à jouer de la cornemuse. Lui, ce serait plutôt de la harpe. Non, de la flûte. En plein air, les cordes s'abîmaient trop vite. Bien entendu, il y aurait une petite ville pas très loin, avec une auberge et des clients avides d'assister à ses représentations. Tom salua deux serviteurs d'un fort joli mouvement de sa cape. Par la chaleur ambiante, le seul avantage de ce vêtement, c'était de montrer à tous qu'ils avaient affaire à un trouvère. Presque chaque fois, l'équidame s'arrêtait, espérant qu'il leur improviserait un petit quelque chose. Une réaction très gratifiante. Oui, une ferme aurait ses vertus. La tranquillité, la solitude. À condition qu'il y ait de la vie pas trop loin. Le trouvère poussa la porte de sa chambre et se pétrifia. Moiraine se redressa sur son tabouret, imperturbable comme si elle avait le droit de fouiner dans le document étalé sur la table, et tira sur le devant de sa robe. Devant lui, Tom avait désormais une très jolie femme disposée à tout faire pour lui plaire, y compris rire à ses mauvaises blagues.
« Vieille abruti, c'est une Aes Sedai, et tu es trop fatigué pour aligner correctement deux pensées. Je te souhaite bien le bonjour, Moiraine Sedai. »
dit-il en accrochant sa cape à une patère. Prudent, il évita de regarder le nécessaire à écrire toujours glissé sous la table. Inutile de laisser deviner à sa visiteuse que cet objet comptait à ses yeux. Quand elle serait partie, vérifier la serrure ne servirait à rien. Avec le pouvoir, elle avait très bien pu la déverrouiller puis la refermer sans laisser de traces. Fatigué comme il l'était, il ne se rappelait plus s'il avait laissé quelque chose de compromettant dans sa boîte à malice. Ou ailleurs dans la chambre. À première vue, tout était à sa place, donc Moiraine s'était seulement intéressé à la table. Et là, il n'était pas assez idiot pour avoir exposé aux quatre vents ses petits secrets. Dans les quartiers des serviteurs, les portes n'avaient ni serrure ni loquet.
« Je t'aurais bien offert à boire, mais je n'ai rien, à part de l'eau. »«
Je n'ai pas soif, »
répondit Moiraine. Elle se pencha en avant, et la pièce se révéla assez petite pour qu'elle puisse poser une main sur le genou droit de Tom. Il sentit comme une série de piqûres d'épingles.
« Dommage qu'il n'y ait pas eu une guérisseuse près de toi lorsque c'est arrivé. Désolé, mais il est trop tard pour intervenir. »«
10 guérisseuses n'auraient pas suffi. C'est l'œuvre d'un demi-humain. »«
Je sais. »«
Oui. Et que sais-tu d'autre ?»
Tom tira son seul fauteuil de sous la table et dut ravaler un juron. Il se sentait frais et dispos, comme s'il venait de se réveiller, et son genou ne lui faisait plus mal. Sa jambe était toujours un peu raide, mais l'articulation allait mieux que jamais depuis le jour où il avait été blessé.
Elle ne m'a même pas demandé si j'acceptais la guérison. Que la lumière me brûle. Elle cherche quoi ?
Tom prit garde de ne pas plier la jambe. Si elle ne l'interrogeait pas,
Il n'avait aucune intention d'accuser réception de son cadeau.
« Hier fut une journée intéressante, »
dit Moiraine, tandis que le trouvère s'asseyait.
« Pour des Trollocs et des Myrdraal, j'emploierai un autre adjectif. »
« Je ne songeais pas à eux. Le haut seigneur Carléon est mort lors d'un accident de chasse. Son ami Thédosian l'a pris pour un sanglier. Ou un cerf. »«
Première nouvelle. »
marmonna Tom. Même si Moiraine avait trouvé le billet assassin, elle n'avait pas pu remonter jusqu'à lui. Carléon lui-même aurait cru reconnaître son écriture. Cela dit, il avait affaire à une Aes Sedai, et s'il se laissait aller à l'oublier, le regard serein mais perçant de son interlocutrice le lui rappellerait.
« Dans les quartiers des domestiques, les ragots vont bon train, mais je ne tends jamais l'oreille. »«
C'est vrai. Dans ce cas, tu ignores sûrement que Thédosian est tombé malade une heure après son retour à la pierre. Le pauvre a seulement eu le temps de boire le verre de vin que sa femme lui avait servi. Quand elle a manifesté l'intention de veiller sur lui, ce grand sensible en a pleuré, paraît-il. » De joie devant tant d'amour, peut-on supposer. Elle a juré de ne pas le laisser une seconde tant qu'il n'aurait pas quitté le lit, vivant ou mort.
Moiraine savait tout. Comment ? Impossible à dire. Mais elle savait, ça ne faisait pas de doute. Mais pourquoi lui révélait-elle son jeu ?
Une tragédie,
lâcha Tom d'un ton superbement détaché.
Rand a besoin de tous les hauts seigneurs loyaux disponibles.
Loyaux ? Voilà un adjectif que je n'emploierai pas pour ces deux-là. Même entre eux, la confiance ne régnait pas. Il dirigeait la faction qui désire tuer Rand puis oublier qu'il a un jour arpenté ce monde.
Non, vraiment ? Moi, je ne sais rien de tout ça. Les hautes ou basses œuvres des grands de ce monde ne sont pas faites pour les artistes.
Moiraine eut un rire de gorge avant de réciter.
Tom Drin Merilyn, surnommé jadis le renard gris par des gens qui le connaissaient ou qui avaient des raisons d'en savoir long sur lui. Barde à la cour d'Andorre. Amant de la reine Morgaz après la mort de Taringale. Une mort dont Morgaz aurait dû se féliciter, si elle avait su que le cher défunt projetait de la faire assassiner pour régner à sa place. Mais nous parlions de Tom Merilyn, un homme, dit-on, qui pouvait jouer au grand jeu en dormant. Quel dommage qu'il ne soit plus qu'un simple trouvère. Mais garder son vrai nom, quel panache, ou quelle arrogance.
Tom parvint de justesse à dissimuler son trouble. Que savait cette femme ? Déjà beaucoup trop de choses, même si elle n'avait plus rien à ajouter. Mais elle n'était pas la seule à pouvoir jouer à ce jeu-là.
« Puisqu'on parle de nom, »
dit Tom.
« C'est surprenant ce qu'on peut en tirer comme information. Moiraine Damodred. Dame Moiraine de la maison Damodred du Cairien, la plus jeune demi-sœur de Taringale, nièce du roi Laman et Aes Sedai, ne l'oublions pas. Une Aes Sedai qui aide le dragon réincarné depuis longtemps. » Avant même d'avoir pu savoir qu'il n'était pas un pauvre idiot de plus capable de canaliser le pouvoir. Une femme qui a des relations de très haut niveau à la Tour Blanche, sinon elle ne prendrait pas des risques si fous. Quelqu'un de bien placé dans le hall de la tour ? Non, plus d'une seule personne. Si ça se savait, ça ferait du bruit. Mais pourquoi l'ébruiter ? Quand on peut laisser un vieux trouvère se tapir dans son trou, au cœur des quartiers des domestiques. Un vieux type qui joue de la harpe et raconte des histoires inoffensives.
Moiraine était-elle déstabilisée ? Même si elle avait chancelé intérieurement une fraction de seconde, ça n'avait pas eu d'effet visible.
Les spéculations sont toujours dangereuses, parce qu'on n'a par définition aucune preuve. Je n'utilise pas de mon plein gré le nom de ma maison, parce qu'elle a une réputation épouvantable et amplement méritée. Laman a coupé Avendor Aldera, et ça lui a coûté son trône et sa vie. Depuis la guerre des Aiel, la réputation de ma maison a encore empiré. Et là aussi, c'est mérité.
Rien n'ébranlerait donc cette femme ?
Que veux-tu de moi ?
Demanda Tom, agacé.
Elaine et Ninévé embarqueront aujourd'hui pour Tanchico, une ville très dangereuse. Ton savoir et tes compétences pourraient leur sauver la vie.
Ainsi c'était ça le but ? Séparer Tom de Rand, afin que le gamin soit sans défense contre les manipulations de la Aes Sedai.
Tanchico est une ville dangereuse, c'est vrai, mais ça n'est pas nouveau. Je ne souhaite rien de mal à ces deux jeunes femmes. Pourtant, je n'ai aucune envie de glisser la tête dans un nid de vipères. Je me fais trop vieux pour ces bêtises. J'envisage de vivre dans une ferme, bien au chaud, dans la quiétude.
La quiétude te tuerait en quelques semaines,
fit Moiraine. Tandis qu'elle arrangeait les plis de sa robe, Tom eut l'impression qu'elle tentait de dissimuler un sourire.
En revanche, Tanchico n'aura pas ta peau. J'en suis certaine, et sur le premier serment, tu sais que c'est la vérité.
Tom ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Une Aes Sedai ne pouvait pas mentir, d'accord. Mais comment savait-elle qu'il survivrait? Moiraine n'avait pas le don de prédiction. Elle ne s'en était jamais cachée. Pourtant, que la lumière la brûle.
Pourquoi irais-je à Tanchico?
Pour protéger Elaine, la fille de Morgaz.
Je n'ai pas vu la reine depuis 15 ans. Et la fille héritière était une enfant à l'époque.
Moiraine hésita, mais quand elle se jeta à l'eau, sa voix ne trembla pas.
Et la raison de ton départ d'Andorre? Un neveu nommé Owen, je crois. Un de ces crétins capables de canaliser, comme tu dirais. Les sœurs rouges auraient dû le ramener à la Tour Blanche, comme tous les hommes de ce genre. Mais elles l'ont apaisé sur place et abandonné à la merci de ses voisins.
Tom se leva, renversant son siège. Puis il dut se tenir à la table, parce que ses genoux tremblaient. Après avoir été apaisé, Owen n'avait pas survécu très longtemps, chassé de chez lui par de soi-disant amis qui ne supportaient pas de laisser vivre parmi eux un homme ayant eu l'aptitude de canaliser. Quand une personne n'avait plus envie de continuer, on ne pouvait rien faire. Tom s'était révélé impuissant, et il n'avait pas davantage pu sauver la jeune épouse de son neveu, suicidée moins d'un mois après la mort de son mari. Le trouvère se racla la gorge.
« Pourquoi me racontes-tu ça ?»
De la compassion passa sur le visage de Moiraine. Et une ombre de regret ? Non, pas chez une Aes Sedai. Et la compassion ne devait pas être sincère.
« Je n'aurais rien dit si tu avais accepté d'accompagner Elaine Nineveh. »«
Pourquoi ?»«
Parce que si tu changes d'avis, je te donnerai les noms de ces sœurs rouges, lors de notre prochaine rencontre, bien entendu. Et j'ajouterai celui de la femme qui leur donnait des ordres, car elles n'ont pas agi de leur propre initiative. Tom, ce n'est pas un piège. Nous nous reverrons, car tu ne mourras pas au Tarabone. »«
Et qu'est-ce que j'en ficherai de ces noms ? L'identité d'Aes Sedai protégée par toute la puissance de la Tour Blanche ?»
Un expert du grand jeu sait faire flèche de tout bois. Ces femmes ont mal agi, et on n'aurait pas dû pardonner leur faute.
Moiraine, aurais-tu l'obligeance de me laisser?
Je te montrerai que tous les Aes Sedai ne sont pas comme ces criminels.
S'il te plaît.
Tom resta appuyé à la table jusqu'à ce que sa visiteuse soit sortie. Pas question qu'elle le voie tituber, ni qu'elle le regarde pleurer en silence.
Owen, mon pauvre garçon, je suis arrivé trop tard. Mais j'étais trop pris par ce maudit grand jeu.
Tom s'essuya les joues. Au grand jeu, Moiraine était de taille à affronter n'importe qui. Elle l'avait dominé dès le début, tirant sur des fils qu'il croyait bien cachés. Elaine, la fille de Morgaz. Pour la reine, il gardait un peu de tendresse. Peut-être un peu plus que ça. Mais comment abandonner une enfant que jadis on faisait sauter sur ses genoux?
Cette petite à Tanchico. Même sans la guerre, cette ville la dévorerait vivante. Et là, c'est un repère de loups enragés. De plus, Moiraine me donnera les fameux noms.
Tout ça s'il consentait à laisser rendre entre les mains des Aes Sedai. Comme il avait abandonné Owen. Moiraine le tenait comme un serpent enroulé autour d'un bâton.
Que la lumière la brûle.
Glissant le bras dans la hanse de son nécessaire à broderie, Mine releva de l'autre main l'ourlet de sa robe, et sortit d'un pas léger du réfectoire où elle venait de prendre son petit déjeuner. Le dos bien droit, elle aurait pu porter un gobelet de vin sur la tête sans en renverser une goutte. Rien d'étonnant quand on songeait qu'elle était incapable, dans cette fichue tenue, d'allonger correctement le pas. Si elle ne le remontait pas, l'ourlet de sa robe étroite frottait contre le sol, et elle risquait à tout moment de se prendre les pieds dedans. De plus, elle aurait parié que l'arras ne la quittait pas des yeux. Jetant un coup d'œil derrière elle, Mine constata qu'elle ne se trompait pas. La maîtresse des cuisines, une vraie barrique de vin sur pattes, lui souriait depuis la porte du réfectoire, dont elle obstruait présentement l'entrée. Qui aurait pensé que Laras était dans sa jeunesse une beauté, ou qu'elle avait une tendresse particulière pour les jolies filles se montrant volontiers charmeuses? Les enjouées, comme elle les appelait. Et qui aurait deviné qu'elle déciderait de prendre Elmine Dreda sous son aile imposante? Une situation qui n'avait rien de confortable. Laras gardait sur Mine un œil protecteur, capable de la localiser partout dans la Tour Blanche. Mine rendit son sourire à Laras, puis tapota ses cheveux désormais coiffés en un chignon bien rond.
« Fichue bonne femme. Elle n'aurait pas un chaudron sur le feu ou quelques filles de cuisine à sermonner ?»
Laras fit un signe de la main que Mine lui rendit également. Offenser une femme qui la surveillait de si près n'aurait pas été une bonne idée, surtout alors qu'elle ignorait combien d'erreurs elle était susceptible de commettre. Laras connaissait toutes les astuces des enjouées, et elle entendait combler les lacunes de Mine en la matière. La broderie était une grossière erreur, songea la jeune femme en s'asseyant sur un banc à l'ombre d'un grand saule. Pas du point de vue de la race, mais du sien propre. Sortant son canevas du nécessaire, elle étudia sombrement son ouvrage de la veille. Plusieurs boucles d'un jaune maladif et un motif censé être une rose jaune clair, mais personne n'aurait deviné sans explication de sa part. Bref, elle n'était pas douée, pensa-t-elle en sortant ses aiguilles. Cela dit, Léane avait parfaitement raison. Une femme pouvait rester assise des heures avec son canevas sur les genoux, et personne ne trouvait ça bizarre. Un prétexte parfait pour espionner qui on voulait tout le temps qu'on désirait. Cela dit, un peu de talent pour la broderie n'aurait pas été du luxe. Au moins, c'était une matinée parfaite pour être à l'extérieur. Un soleil étincelant brillait dans un ciel dégagé, où quelques nuages blancs dérivaient histoire de souligner la perfection du bleu céruléen. Embaumant le parfum des roses fraîchement écloses, une brise légère caressait les grands massifs de partenelles piquetés de fleurs jaunes et blancs. Très bientôt, les sentiers de gravier seraient pris d'assaut par des gens affairés, un échantillon de toute la population de la tour, des Aes Sedai aux garçons d'écurie. Une matinée parfaite et idéale pour observer sans se faire remarquer. Avec un peu de chance, la pêche serait bonne.
« Elmindreda ?»
Mine sursauta, se piqua le doigt et le porta à ses lèvres. Puis elle se tourna sur le banc, prête à sermonner Gawain de l'avoir effrayé ainsi. Mais Galad était avec elle. Plus grand que son compagnon, il marchait avec une grâce de danseur et la puissance contenue d'un véritable athlète aux muscles longilignes. Longue et fine, ses mains aussi évoquaient à la fois l'élégance et la force. Quant à son visage, eh bien, c'était tout simplement le plus bel homme que Mine avait jamais vu.
« Arrête de sucer ton doigt !»
lança Gawain, souriant.
« Nous savons que tu es une adorable petite fille. Inutile de nous en faire la démonstration. »
Rosissant, Mine retira son doigt de sa bouche et se retint de foudroyer l'insolent du regard, une réaction qui n'aurait pas collé au personnage d'Elmindreda. Gawain n'avait pas eu besoin des ordres ni des menaces de la chère d'Amerlin pour garder le secret de son amie, car il avait suffi qu'elle le lui demande. Mais il ne manquait pas une occasion de la taquiner sur son personnage.
« Ne te moque pas d'elle, Gawain, »
intervint Galad.
« Maîtresse Elmindreda, il n'avait pas l'intention de te froisser. Mille excuses, mais ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés ? Quand tes yeux lançaient des éclairs sur ce jeune impertinent, j'ai eu l'impression qu'on se connaissait. »
Mine baissa pudiquement les yeux.
« Seigneur Galad, si je t'avais croisé, je ne t'aurais sûrement pas oublié. »
minauda-t-elle de sa plus belle voix de jeune écervelée. Furieuse de s'être trahie, la jeune femme rougit de colère, une réaction qui ajouta de la crédibilité à son personnage de jeune donzelle effarouchée. Elle ne se ressemblait plus du tout dans ce rôle, la robe et la coiffure faisant seulement fonction d'adjuvant. Lors d'une visite en ville, Léane avait acheté un incroyable assortiment de crèmes, de poudres et d'autres substances bizarres hautement parfumées. Impitoyable, elle avait formé Mine jusqu'à ce qu'elle soit capable d'utiliser ses cosmétiques en dormant. Désormais, elle avait des pommettes clairement dessinées et des lèvres bien plus rouges qu'à l'accoutumée. Du fard mettait en valeur ses paupières, et une poudre très fine laissait ressortir ses cils, agrandissant artificiellement ses yeux. Rien à voir avec elle, en d'autres termes. Quelques novices l'avaient complimentée pour sa beauté, et il arrivait qu'une Aes Sedai la traite de très jolie fille. Bien entendu, elle détestait ça. Si la robe était superbe, certes, elle abominait tout le reste. Mais quand on optait pour un déguisement, il fallait jouer le jeu jusqu'au bout.
« Oui, si tu le connaissais, tu ne l'aurais pas oublié. »
marmonna Gawain. Non sans amertume.
Je ne voulais pas te déranger en plein travail. Ce sont bien des hirondelles que tu brodes. Mais tu es sûr pour le jaune ?
Mine rangea le canevas dans son nécessaire.
Mais je voulais ton avis sur cet ouvrage.
Dit Gawain en glissant dans la main de la jeune femme un petit livre relié de cuir visiblement très vieux.
Explique à mon frère que c'est absurde. Toi, il t'écoutera peut-être.
Mine étudia le livre. La tradition de la lumière par Lothair Mantellar. Puis elle le feuilleta et lut un passage au hasard.
« En conséquence, oublie toute idée de plaisir, car le bien est une pure abstraction, un idéal cristallin et limpide dont les émotions humaines troublent l'éclat. Surtout ne soigne pas la chair. Elle est faible et inutile, alors que l'esprit est fort. Les sensations occultent la raison, et les passions sont les ennemis des actes vertueux. Que ta joie vienne de ta rectitude et de rien d'autre. »
Effectivement, un tissu d'ânerie. Mine sourit à Gawain, un demi-rictus plutôt.
Une telle profusion de mots. Seigneur Gawain, j'ai peur de ne pas connaître grand-chose au livre. J'ai toujours eu envie d'en lire un, c'est vrai. Mais le temps file si vite. Arranger mes cheveux me prend chaque jour des heures. Au fait, ma coiffure te plaît ?
La stupéfaction de Gawain faillit faire s'esclaffer Mine. Mais elle opta pour un rire de gorge. Pour une fois, Rouler le jeune homme dans la farine était une pure joie. Avec un peu de chance, elle pourrait recommencer. Décidément, se déguiser offrait des possibilités insoupçonnées. Ce séjour à la tour se révélant ennuyeux et frustrant, elle avait bien le droit de se distraire un peu.
« Lothair Mantellard est le fondateur des Capes Blanches !»
grogna Gawain.
« Les Capes Blanches ! C'était un grand homme !»
s'exclama Galade.
« Un philosophe épris d'un noble idéal. Les fils de la lumière ont parfois été excessifs au cours de leur histoire, c'est vrai. Mais ça ne change rien. »«
Les Capes Blanches, vraiment ?»
répéta Mine en frissonnant comme une oie blanche.
« Des hommes terribles, d'après ce qu'on dit. On les imagine mal en train de danser, pas vrai ? Messire, vous croyez qu'il y aura un bal bientôt ? Les Aes Sedai ne semblent pas aimer la danse, et moi, c'est une de mes passions. »
Gawain faillit s'en étrangler d'indignation rentrée.
« J'ai peur que non, »
répondit Galade en reprenant à Mine son précieux traité de philosophie.
« Les Aes Sedai sont trop occupés par leurs propres affaires. Si j'entends parler d'un bal convenable en ville, je serai ton cavalier. Ainsi, tu n'auras pas peur d'être embêté par ces deux vauriens. »
Galade sourit à Mine. Pour lui, ce n'était qu'une manifestation de courtoisie, mais la jeune femme en eut le souffle coupé. Les hommes n'auraient pas dû avoir le droit de sourire ainsi. Mine eut besoin d'un moment pour comprendre qui étaient les deux vauriens mentionnés par le prince. Censés avoir demandé la main d'Elmine Breda, ces deux idiots avaient failli se battre parce qu'elle ne parvenait pas à se décider. Se sentant harcelée, elle avait cherché refuge dans la tour, prétendument parce qu'elle ne pouvait pas cesser de les encourager tous les deux. La fable qui expliquait sa présence ici, tout simplement.
« C'est cette robe. Dans mes vêtements, je serais capable d'aligner deux pensées cohérentes. »
« J'ai remarqué que la chère Dame Irline te parle tous les jours, »
dit Gawain.
« A-t-elle évoqué notre sœur Elaine ? Ou Egwene Alvéré ? Saurait-elle où elles sont ?»
Mine aurait donné cher pour frapper le prince et lui faire un œil au beurre noir. Il ignorait pourquoi elle jouait la comédie, certes, mais il avait accepté de l'aider à incarner Elmine Breda. Et voilà qu'il la reliait à des femmes dont tout le monde savait, à la tour, qu'elles étaient les amies de Mine.
« La chère Dame Irline est une femme charmante, monseigneur. Elle me demande comment je passe le temps. » et me complimente sur ma coiffure. Elle doit espérer que je choisirai bientôt entre Darvan et Goemal, mais ça m'est impossible. »
Mine écarquilla les yeux, un bon moyen, selon elle, de sembler perdue et vulnérable.
« Ils sont si mignons. Qui donc as-tu dit ? Ta sœur, la fille héritière ? Non, la chère d'Amirline ne m'en a pas dit un mot, à ma souvenance. Quel était l'autre nom ?»
Mine entendit Gawain grincer des dents.
« Nous ne devrions pas ennuyer maîtresse Elmine Breda avec ça, »
intervint Galade.
« C'est notre problème. À nous de découvrir le mensonge et de faire ce qu'il faut. »
Mine écouta à peine, car quelque chose venait d'attirer son attention. Un homme de haute taille aux longs cheveux noirs bouclés tombant sur ses épaules, qui allait et venait sous l'œil attentif d'une acceptée. Loghain. Ou plutôt l'ombre de Loghain, désormais toujours accompagné par une acceptée. Chargé de l'empêcher de s'évader ou d'éviter qu'il se suicide. Les deux probablement, même si dans son état, il ne devait guère songer à s'enfuir. Mine avait déjà vu le faux dragon. En revanche, c'était la première fois qu'elle apercevait autour de sa tête un halo jaune et bleu. Ce fut fugitif, certes, mais impossible à rater. Loghain avait prétendu être le dragon réincarné. Capturé puis apaisé, il ne gardait sûrement plus qu'un très vague souvenir de sa gloire usurpée. De cette aventure, il gardait uniquement le désespoir des apaisés. Comme si on lui avait arraché la vue, l'ouïe et le goût, il ne lui restait plus que l'envie de mourir. Un sort de toute façon inévitable pour les hommes comme lui, et dans un assez bref délai. Loghain tourna la tête vers la jeune femme, qui n'aurait pas juré qu'il la voyait vraiment. Mais que signifiait ce halo, annonciateur de gloire et de puissance ? Mine devrait absolument en parler à la chère d'Amirline.
« Le pauvre gars !»
souffla Gawain.
« Je ne peux pas m'empêcher de le prendre en pitié. Le laisser en finir serait plus humain. Pourquoi le condamner à vivre ?»«
De la pitié, lui !»
s'écria Galade.
Il n'en mérite pas. As-tu oublié ce qu'il était et ce qu'il a fait ? Combien de milliers de morts avant sa capture ? Combien de villes brûlées ? Que son calvaire soit un avertissement pour ses émules. »
Gawain acquiesça à contre-cœur.
Pourtant, il a eu des fidèles. Certaines de ces villes furent brûlées parce qu'elles avaient pris son parti.
« Je dois partir, »
dit Mine en se levant. Galade recouvra aussitôt toute sa galanterie.
« Pardonne-nous, maîtresse Elmine Breda. Nous ne voulions pas t'effrayer. » « Loghain ne peut pas te faire de mal. Parole de Galade. »«
Je... En sa présence, je me sens mal. Vraiment, il faut que j'aille m'étendre. »
Gawain sembla très sceptique. Il s'empara pourtant du nécessaire de la jeune femme.
« Laisse-moi t'accompagner un bout de chemin !»
implora-t-il, feignant une grande inquiétude.
« Ce nécessaire est trop lourd pour quelqu'un qui ne se sent pas bien. Je ne voudrais pas que tu t'évanouisses. »
Min eut envie d'arracher le nécessaire à ce jeune coq et de l'assommer avec. Mais Elmine Dreda ne se comportait pas ainsi.
« Merci, Seigneur Gawain. Tu es si gentil. Non, Seigneur Galad. Inutile de m'accompagner aussi. Assieds-toi sur le banc et lis ton traité. Jure de le faire, sinon j'en serai bouleversé. »
Histoire de ponctuer sa tirade, Min battit des cils. Sa tactique fonctionna. Laissant Galad sur le banc, elle s'éloigna, Gawain sur les talons. Maudite robe qui lui interdisait de partir à la course. Mais Elmine Dreda n'était pas du genre à courir, et encore moins à relever très haut l'ourlet de sa robe, sauf quand elle dansait. La race avait été très claire sur ce point. Une seule course, et elle aurait dévasté presque irrémédiablement l'image d'Elmine Dreda. Restait le problème de Gawain.
« Donne-moi ce nécessaire, crétin décérébré !»
lança-t-elle dès qu'ils ne furent plus dans le champ de vision de Galad. Elle récupéra son bien d'autorité.
« Quelle idée de mentionner Elaine et Egwene devant lui ! Elmine Dreda ne les connaît pas. Leur sort l'indiffère, et elle refuse qu'on parle d'elle dans une phrase où figure leur nom. Tu peux te fourrer ça dans le crâne ?»«
Non, pas tant que tu ne m'auras pas tout expliqué. Cela dit, je suis navré. »
Min n'en crut pas un mot.
« Je m'inquiète, comprends-tu ? Où sont-elles ? Ces rumeurs sur la présence d'un faux dragon à Théa ne me rassurent pas. Elaine et Egwene sont quelque part, la lumière seule sait où. Et j'ai peur qu'elles soient perdues au milieu d'une tempête semblable à celle que Logan a déclenchée au Gael'dan.
Et s'il ne s'agissait pas d'un faux dragon ?
Tu dis ça parce qu'on raconte qu'il a pris la pierre de Théa ? Les rumeurs, toujours. J'y croirai quand je verrai ça de mes yeux, et ça ne suffira pas à me convaincre. Même la pierre n'est pas inexpugnable. Tu sais, je doute qu'Elaine et Egwene soient à Théa. Mais ne pas savoir me ronge l'âme comme un acide, si elle est blessée. »
Min n'aurait su dire qui désignait ce « elle ». Le jeune homme non plus, selon elle. Même s'il la taquinait, elle était de tout cœur avec lui, mais sans pouvoir l'aider.
« Si tu pouvais au moins m'écouter et… »«
Me fier à la chair d'Amerlin ? Je sais. »
Gawain soupira.
« Dire que Galad a trinqué avec des capes blanches dans plusieurs tavernes. À condition de venir en paix, tout le monde peut franchir les ponts, même les fils de la lumière. »
Galad ? Trinquer dans des tavernes ?
Avec modération, bien sûr. Même pour son anniversaire, il ne lève jamais le coude plus que de raison.
Gawain sembla se demander si c'était vraiment une critique ou plutôt un compliment.
L'essentiel est ailleurs. Il parle avec des capes blanches. Et maintenant ce livre. Si on en croit la dédicace, Eamon Valda en personne ne lui a remis. Avec l'espoir que tu trouves ton chemin. Valda ! L'homme qui commande les fils de la lumière massés de l'autre côté de tous les ponts. Pauvre Galad, l'ignorance le rend fou, lui aussi. Si quelque chose arrive à notre sœur ou à Egwene. Min, sais-tu où elles sont ? Si tu en étais informé, me le dirais-tu ? Pourquoi te caches-tu ici ?
Parce que j'ai fait perdre la raison à deux hommes sans pouvoir me décider pour l'un d'eux.
Gawain eut un ricanement qu'il transforma en sourire.
Voilà une histoire que je peux croire.
Fit-il flatteur. Il caressa Min sous le menton.
Tu es une très jolie fille, Elmine Dreda. Jolie et intelligente.
Min ferma le poing et essaya bel et bien de faire un œil au beurre noir à l'insolent. Mais il esquiva et elle se prit les pieds dans sa robe, manquant s'étaler.
Gros bovin sans cervelle ! Crétin d'homme !
Quelle grâce, Elmine Dreda !
Railla Gawain.
Et quelle douce voix ! Un vrai rossignol ! Voire une colombe qui recoule par une paisible soirée.
Il redevint sérieux.
Si tu apprends quelque chose, tiens-moi informé, je t'en supplie à genoux.
Je t'informerai, oui. Si je peux. Si ça n'est pas dangereux pour mes amis. Mais je déteste cet endroit. Pourquoi ne puis-je pas aller rejoindre Rand ?
Min planta Gawain là et entra dans la tour, se préparant à subir les questions d'une Aes Sedai ou d'une acceptée, se demandant ce qu'elle faisait au rez-de-chaussée et où elle comptait aller. La nouvelle concernant Loghain était trop importante pour qu'elle attende sa rencontre fortuite avec la chair d'Amerlin en fin d'après-midi, comme d'habitude. En tout cas, elle en était persuadée, et l'impatience la faisait bouillir intérieurement. Dans les couloirs, elle vit seulement un petit groupe d'Aes Sedai qui s'engouffra dans une salle, loin devant elle. C'était parfait. Personne ne rendant de visite impromptue à la dirigeante de l'ordre, mieux valait éviter d'être vu. Sauf par les domestiques, bien sûr, qui n'avaient pas le pouvoir de l'intercepter. Entrant dans l'antichambre du bureau de Siouan, elle se prépara à débiter une fable quelconque si elle se trouvait en présence de Léane. Mais la pièce était vide. La traversant, Mine poussa la seconde porte et passa la tête dans le bureau où la chère Dame Merlin et la gardienne des chroniques étaient assises face à face, des deux côtés d'une table de travail couverte de documents. Les deux femmes tournèrent la tête, leurs yeux lançant des éclairs.
« Que fais-tu ici ?»
lança la chère Dame Merlin.
« Tu es censée être une idiote qui m'a demandé l'asile, pas une de mes amies d'enfance. Il ne doit pas y avoir de contact entre nous, sauf par hasard. Si ça s'impose, je chargerai la race de veiller sur toi comme une nourrice sur un bébé. Elle adorerait ça, mais je doute que ça te plairait. »
Mine frissonna rien qu'à cette idée. Soudain, le cas Loghain ne lui parut plus si urgent que ça. Après tout, il semblait bien improbable qu'il se couvre de gloire dans les quelques jours à venir. Mais ce n'était pas la vraie raison de sa visite, seulement un prétexte, et elle n'allait sûrement pas renoncer maintenant. Refermant la porte derrière elle, elle décrivit ce qu'elle avait vu et exposa les conclusions qu'elle en avait tirées. Parler devant Léane la gêna un peu, mais elle fit avec. Siouan hocha tristement la tête.
« Un autre sujet d'inquiétude. La famine aux Caïriennes. Une sœur disparue au Tarabone. Des raids de Trolloc dans les terres frontalières. Ce fou qui se fait appeler le prophète et qui provoque des émeutes aux Galdan. Il affirme que le dragon s'est réincarné dans la peau d'un seigneur du Chiennard. Même les choses secondaires vont mal. La guerre en Arad Doman a gelé le commerce avec le Saldaya, et la crise économique provoque des troubles à Maradon. Ténobia risque même d'y perdre sa couronne. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la flétrissure s'est rétractée pour une raison inconnue. Une lieue de verdure en plus, au-delà des frontières, sans corruption ni pestilence. Et ce, du Saldaya jusqu'au Chiennard. La première fois qu'une telle chose arrive. Mais les bonnes nouvelles doivent être équilibrées par les mauvaises, c'est la règle. Quand un bateau a une voie d'eau, on peut parier qu'il en aura d'autres. J'espère seulement qu'il s'agit d'un équilibre. Léane, fais doubler la garde en ce qui concerne Loghain. Je ne vois pas quel tort il pourrait nous faire, mais mieux vaut ne pas prendre de risques.
Siouan foudroya Mine du regard.
Pourquoi es-tu venu battre des ailes ici comme une mouette effarouchée? Ton rapport sur Loghain aurait pu attendre. Il ne risque pas trop de se couvrir de gloire avant le dîner, non?
Entendre ainsi l'écho de ses propres pensées fit un drôle d'effet à Mine.
« Je sais, »
dit-elle. Léane fronçant les sourcils, Mine se hâta d'ajouter.
« Mère. »
La gardienne approuva du chef cette correction.
« Ça ne me dit toujours pas ce que tu fiches ici. Sauf le jour de mon arrivée, je n'ai rien vu d'important. Et surtout rien qui ait un rapport avec l'âge à noir. »
Comme d'habitude, Mine frissonna en prononçant son nom.
« Je t'ai tout dit sur le désastre qui guette les Aes Sedai. Et tout le reste est insignifiant. »
Elle dut s'arrêter et déglutir, car le regard perçant de Siouan la tétanisait.
« Mère, je n'ai aucune raison de rester, et au moins une bonne de partir. Rand pourrait bénéficier de mon modeste talent. S'il a vraiment pris la pierre, il pourrait avoir besoin de moi. En tout cas, moi, j'ai besoin de lui. Que la lumière me brûle si c'est de la folie. »
La gardienne des chroniques avait sursauté en entendant le nom de Rand. Siouan, elle, se contenta de ricaner.
Tes visions ont été très utiles, au contraire. Ce que tu m'apprends au sujet de Loghain est important. De plus, tu as démasqué le palefrenier voleur avant que les soupçons se portent sur un innocent. Et cette novice rousse qui voulait avoir un enfant. Shiryam a étouffé cette folie dans l'œuf, et la fille ne pensera plus aux hommes avant d'avoir fini sa formation. Sans toi, nous n'aurions rien su de cette affaire avant qu'il soit trop tard. En d'autres termes, non, tu ne peux pas partir. Tôt ou tard, tes visions me mettront sur la piste de l'âge à noir. Et jusque-là, elles auront largement remboursé ton séjour. »
Mine soupira, et pas seulement parce que la chère Dame Merlin refusait de la lâcher. La dernière fois qu'elle l'avait vue, la novice rousse se dirigeait furtivement vers une partie boisée du complexe en compagnie d'un garde musclé. Ces deux-là seraient mariés avant la fin de l'été, Mine l'avait deviné dès qu'elle les avait aperçus ensemble. Et tant pis si la tour ne laissait jamais partir une novice de son plein gré, lui imposant d'attendre une décision des Aes Sedai, même quand elle ne pouvait pas aller plus loin dans sa formation. L'avenir de ce couple passait par une ferme et une ribambelle d'enfants, mais il était inutile d'insister là-dessus auprès de la chère Dame Merlin.
Mère, pourrais-tu au moins informer Gawain et Galad qu'Egwen et leurs sœurs vont bien ?
Mine se détesta d'avoir posé cette question, et elle abomina encore plus le son de sa voix. On eût dit une gamine à qui on viendrait de refuser un gâteau et qui pleurnicherait pour avoir un biscuit.
Je t'ai déjà dit que cette affaire ne te regarde pas. Ne me force pas à radoter. Les princes ne croient plus aux mensonges officiels, et moi non plus d'ailleurs.
Mine n'en dit pas davantage, son courage douché par le sourire glacial de Siouan.
Donc tu proposes que je modifie ma version, après avoir laissé croire à tout le monde qu'elles sont dans une ferme. Tu ne crois pas que ça intriguerait plus d'une personne ?
tout le monde accepte ma version, à part les deux princes. Et toi?
Eh bien,
Colin Gaidin devra les faire s'entraîner plus intensément, voilà tout. Les courbatures et la fatigue suffisent généralement à dissuader les hommes de se poser des questions trop complexes. Les femmes aussi, d'ailleurs. Continue comme ça, et je verrai si quelques jours consacrés à récurer des chaudrons te feront un effet salutaire. J'aime mieux me passer pour un temps de tes services que te voir fourrer ton nez là où il n'a rien à faire.
Tu ne sais même pas si elles ont des problèmes, pas vrai?
Et c'est pareil pour moi, Rain.
Ce n'était pas à Aes Sedai que Mine pensait, en réalité.
Petite!
Souffla Léane, agacée et menaçante. Mais plus rien ne pouvait arrêter Mine.
Pourquoi n'avons-nous pas de nouvelles? Des rumeurs sont arrivées ici il y a 2 jours. 2 jours! Pourquoi aucun des messages étalés sur ton bureau n'est-il signé de sa main? Elle n'a pas de pigeon voyageur? Je croyais que les Aes Sedai en avaient aux 8 coins du monde. Et s'il n'y en a pas, c'est une erreur. Un homme à cheval aurait déjà pu atteindre Tarvalon et...
Xuan tapa du plat de la main sur la table, coupant la chic à la jeune femme.
Tu es très doué pour obéir, mon enfant. Jusqu'à ce que nous ayons eu vent du contraire, suppose que notre jeune homme se porte bien.
Léane sursauta de nouveau.
Indique ton cours dans l'assommoir, petite. Ne cherche pas de noises aux ennuis, tant que les ennuis ne te cherchent pas de noises. Grave-le dans ton esprit.
Quelqu'un frappa timidement à la porte. La chère d'Amerline et sa gardienne se regardèrent, puis deux perdieux se braqua sur Mine. Sa présence posait un problème, et elle n'avait nulle part où se cacher. Même le balcon était entièrement exposé à la vue.
« Il nous faut trouver une explication à ta présence ici. »
marmonna Xuan.
« Quelque chose qui n'incite pas à croire que tu es davantage qu'une jeune écervelée. »
Les deux Aes Sedai se levèrent. Xuan fit le tour de la table de travail, tandis que Léane se dirigeait vers la porte.
« Prends le siège de la gardienne, petite. Allons, dépêche-toi. Et maintenant, tire franchement la tête. Non, n'aie pas l'air en colère, mais boudeuse. Baisse les yeux et mendique-toi la lèvre inférieure. » Je vais finir par t'obliger à porter de gros rubans rouges dans les cheveux si ça continue. Oui, c'est bien. Léane, tu peux ouvrir.
Xuan plaqua les poings sur ses hanches et haussa le ton.
Et si tu oses encore entrer ici à l'improviste, je n'hésiterai pas à mettre mes menaces à exécution.
Léane ouvrit la porte pour révéler une novice qui tressaillit en entendant la phrase de Xuan, puis qui se fendit une profonde révérence tandis que la dirigeante faisait la liste des menaces en question.
2 messages pour la chair d'Amerline, Aes Sedai.
Dit enfin la novice à Léane.
« Délivré par des pigeons. »
La novice comptait parmi celles qui avaient complimenté Mine pour sa beauté. Les yeux écarquillés, elle tentait de regarder par-dessus l'épaule de la gardienne.
« Ce qui se passe ici ne te concerne pas, mon enfant. »
lâcha Léane. Elle s'empara des 2 petits cylindres en os.
« Retourne d'où tu viens. »
Avant que la novice eût fini de se redresser, la gardienne lui claqua la porte au nez. Puis elle s'appuya au battant et soupira.
« Tous les sons inattendus me font sursauter depuis que tu m'as dit que... »
Se reprenant, Léane approcha du bureau.
« 2 messages de plus, mère. Dois-je ?»« Oui, ouvre-les. »
coupa Xuan.
« Je parie que Morgaz a décidé d'envahir le Caïrien, ou que les Trollocs ont balayé les défenses des terres frontalières. Ça couronnerait les autres catastrophes. »
Mine ne bougea pas de son siège. Les menaces de Xuan lui avaient paru sinistrement réalistes. Léane étudia le petit seau de cire rouge qui fermait un des cylindres, constata avec une satisfaction évidente qu'il n'avait pas été forcé, et le fit sauter d'un coup d'ongle net et précis. Puis elle utilisa un cure-dent en ivoire pour extraire le message enroulé glissé à l'intérieur.
« C'est presque aussi grave qu'une victoire des Trollocs, mère. »
annonça-t-elle.
« Mazrim Taïm s'est évadé. Pas la lumière !»
s'exclama Xuan.
« Comment ? Le message dit simplement qu'il a été libéré pendant la nuit, très discrètement. 2 sœurs y ont quand même laissé la vie. Que la lumière éclaire leur âme. Mais quand un homme comme Taïm est libre, surtout avant d'avoir été apaisé, ce n'est pas l'heure de pleurer nos mortes. Où cela s'est-il passé, Léane?
À Denuir, mère, au village à l'est des collines noires, sur la route de Maradon, un peu au-dessus de la source des rivières Antaeo et Luan.
Une intervention de ses partisans, sans nul doute. Les imbéciles. Pourquoi n'ont-ils pas reconnu leur défaite? Léane, choisis 10 de sœurs fiables.
Xuan fit la grimace.
Fiable. Si je savais quelles sœurs sont plus loyales qu'un fichu brochet, je ne serais pas dans une si mauvaise situation que ça. « Fais de ton mieux, Léane. 1000 sœurs et 500 gardes. Non, 1000. Mère !»
s'inquiéta la gardienne.
« Les capes blanches ne tenteront pas de traverser les ponts si je relâche ma surveillance. Les fils croiront à un piège, gardienne. En revanche, comment savoir ce qui guette l'expédition? Il faut que tous ses membres s'attendent au pire. Et bien entendu, Mazrim Taïm devra être apaisé dès qu'on l'aura repris. »
Léane en resta stupéfiée.
« La loi !
Souffla-t-elle.
Je la connais aussi bien que toi. Mais pas question qu'il s'échappe de nouveau sans avoir été apaisé. Je ne veux pas être confronté à un nouveau Geir Amalasan. Pas avec tout ce qui nous tombe déjà dessus. Bien, mère. »
Souffla Léane. La chair d'Amirline prit le second cylindre à la gardienne et le brisa en deux pour en extraire le message.
« Enfin, de bonnes nouvelles !»
s'exclama-t-elle quand elle eut fini de lire.
« La fronde a été utilisée, et le berger brandit l'épée. Rande ?»
demanda Mine.
« Qui d'autre, mon enfant ? La pierre est tombée. Rande Altor, le berger, détient Kalandor. Maintenant, je peux agir. Léane, convoque le hall de la tour pour cet après-midi. Non, pour ce matin. Je ne comprends pas. »
avoua Mine.
Tu as dit que les rumeurs concernaient Rand. Alors pourquoi convoquer le hall? Que peux-tu faire qui était impossible avant l'arrivée de ce message?
Siouan eut un rire de petite fille.
La nouveauté, c'est que je peux annoncer avoir reçu d'une Aes Sedai un message affirmant que la pierre est tombée et qu'un homme s'est emparé de Kalandor. Une prophétie réalisée. Assez pour me servir, en tout cas. Le dragon s'est réincarné. Les conseillères bougonneront et discutailleront, mais aucune ne pourra s'opposer à ma conclusion. La tour doit guider cet homme. Désormais, je peux m'engager ouvertement à ses côtés. Enfin, presque ouvertement. Mère, agissons-nous comme il le faut ?
demanda Léane.
S'il détient Kalandor, c'est qu'il est bien le dragon réincarné. Mais il peut canaliser le pouvoir. Un homme capable de ça. Je l'ai vu une seule fois, mais je l'ai trouvé étrange. Pas seulement parce qu'il est Taveren. Mère, est-il si différent de Taïm, si on va au fond des choses ? Ma fille. La différence, c'est qu'il est le vrai dragon réincarné. Taïm est un loup, peut-être enragé. Rand Altor est le chien de berger qui nous aidera à vaincre les ténèbres. N'ébruite pas son nom, Léane. Mieux vaut ne pas trop en révéler pour l'instant. Comme tu voudras, mère.
Répondit la gardienne, toujours dubitative.
Et maintenant, file. Je veux que le hall soit réuni dans une heure.
Siouan regarda la gardienne sortir, puis refermer la porte derrière elle.
Il pourrait y avoir plus de résistance que prévu. « Mère, tu ne penses pas que... »« Il n'y a pas de véritable danger, mon enfant. Pas tant que ces femmes ignoreront depuis quand je suis impliqué auprès du jeune Altor. »
Siouan relut le message et le laissa tomber sur le bureau.
« Je regrette que Moiraine ne m'en dise pas plus. Pourquoi est-elle si laconique? Et pour quelle raison est-elle restée silencieuse si longtemps? Encore des questions? Celles-là, tu devras les poser à Moiraine. Depuis toujours, elle n'en fait qu'à sa tête. Tu devras l'interroger, mon enfant. »
Sarah Coventry jouait de la binette sans grande conviction. L'œil morne, elle étudiait les diverses mauvaises herbes qui envahissaient les plants de choux et de bêtes. Maîtresse Elward n'était pourtant pas une mauvaise patronne, plus coulante que la mère de Sarah en tout cas, et bien plus facile à vivre que Shyriam. Mais Sarah n'était pas venue à la Tour Blanche pour se retrouver de nouveau dans une ferme en train de sarcler alors que le soleil se levait à peine. Ses robes blanches de novice pliées dans ses bagages, elle portait une sorte de sac en laine marron qui aurait très bien pu avoir été cousu par sa mère. Pour qu'il ne traîne pas dans la poussière, elle avait attaché l'ourlet au niveau de ses genoux. Quel sort injuste! Elle n'avait rien fait, absolument rien. Pliant ses orteils dans la terre retournée, elle foudroya du regard le chien-dent indestructible et canalisa le pouvoir, avec l'intention de carboniser ce qu'elle n'avait pas l'énergie de sarcler. Des étincelles crépitèrent autour de la plante parasite qui commença à se faner. Sarah l'arracha du sol et la chassa aussitôt de ses pensées. S'il y avait une justice en ce monde, le seigneur Galad s'égarerait lors d'une partie de chasse et demanderait son chemin à la ferme. S'appuyant à sa binette, la jeune femme s'abandonna à une douce rêverie, amenée à guérir le beau prince des blessures dues à une chute de cheval, dont il n'était pas responsable bien sûr car c'était un cavalier hors du commun, elle le voyait la hisser en selle devant lui et l'entendait déclarer qu'il voulait devenir son champion. Dans cette configuration, elle appartenait bien sûr à l'âge à vert et...
« Sarah Coventry ?»
Sarah sursauta en s'entendant appeler d'un ton peu amène, mais ce n'était pas maîtresse Elward. Se redressant, elle fit la révérence la plus élégante possible dans sa ridicule situation.
« Bien le bonjour, Aes Sedai. Venez-vous pour me ramener à la tour ?»
L'Aes Sedai avança sans se soucier que l'ourlet de sa robe traîne dans la terre du potager. Malgré la chaleur matinale déjà accablante, elle portait une cape dont la capuche relevée dissimulait ses traits.
« Avant de quitter la tour, tu as conduit une visiteuse devant la chaire d'Amirline. Une femme qui se faisait appeler Elmindreda. »« Oui, Aes Sedai. »
répondit Sarah, troublée. Elle n'aimait pas la façon dont l'Aes Sedai avait parlé, sous-entendant qu'elle avait définitivement quitté la tour.
« Dis-moi ce que tu as vu et entendu pendant que tu étais avec cette femme. Je veux tous les détails. »« Aes Sedai, je n'ai rien entendu.
La gardienne m'a renvoyé dès que... »
La douleur força Sarah à arquer le dos. Alors que ses orteils s'enfonçaient dans la terre, le spasme sembla durer une éternité. Luttant pour reprendre son souffle, la jeune femme s'aperçut qu'elle était tombée, la joue contre le sol et les doigts le labourant. Mais quand avait-elle basculé en avant? Du coin de l'œil, elle voyait le panier à linge de maîtresse Elward renversé, des draps encore humides gisant dans la poussière. Dans sa confusion, elle songea que c'était bizarre. Moria Elward n'était pas femme à traiter ainsi du linge propre.
« Tous les détails, mon enfant !»
dit la Aes Sedai. Elle regardait Sarah de haut sans esquisser un geste pour l'aider. Cette sœur venait de l'agresser, et les choses n'auraient pas dû se passer ainsi.
« Je veux savoir à qui Elmindreda a parlé, et t'entendre répéter tout ce qu'elle a dit, à la moindre nuance près. »«
Aes Sedai, elle a parlé au seigneur Gawain. C'est tout ce que je sais. »
Sarah éclata en sanglots, certaine que la sœur ne serait pas satisfaite par cette réponse. Elle ne se trompait pas. Son calvaire continua, et quand elle cessa enfin de crier, la Aes Sedai quitta la ferme désormais plus silencieuse qu'un cimetière, n'était le caquettement des volailles.